Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de l'année et bonne année à tous. Alors voilà, il va être un tout petit peu plus court que d'habitude parce que, on vient de vous le rappeler, nous sommes dans une semaine tragique qui annonçait d'autres tragédies. Donc le 7 janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo. Le 8 janvier, assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe. Ah, décidément, ce matin, moi, c'est trop tragique tout ça. Et le 9 janvier, c'est-à-dire il y a 10 ans aujourd'hui, l'attentat contre l'hypercachère par Amédi Coulibaly, qui était celui qui avait assassiné la policière. Mais malgré tout, on ne voulait pas se priver de parler du nouveau livre de Sarah Jolien-Fardel qui s'appelle La Longe. Alors Sarah Jolien-Fardel, vous étiez déjà venue ici en 2022 pour votre premier livre qui s'appelle Sa préférée, qui est maintenant disponible en livre de poche, qui était chez Sabine Vespizer, qui est ici aussi avec nous, qui a découvert Sarah Jolien-Fardel. Et alors c'est peu de dire que La préférée, ma préférée, a été bien reçue. Vous avez eu donc le prix FNAC, puis le Goncourt des détenus, puis le Choix Goncourt de la Suisse, puis le prix 1000 pages. Alors, quand un premier roman est aussi bien accueilli et aussi, vous savez qu'on attend le deuxième avec à la fois impatience et peut-être un peu de circonspection. Est-ce qu'elle va savoir bien faire? Vous avez eu peur?
Oui. D'abord, bonjour, pardon, merci pour l'invitation. Alors oui, j'ai eu peur, c'est-à-dire que je me suis mise moi-même une pression en imaginant, en contrôlant un peu mon écriture, en pensant au lecteur, ce qui ne va pas du tout. Et puis, à un moment donné, les personnages sont apparus. J'ai fait la rencontre de Rose, donc la narratrice principale de ce livre, de La Longe. Vraiment, je peux dire, je l'ai rencontrée à partir du moment où elle a été présente. J'ai tout oublié. Enfin, j'ai oublié les lecteurs, en tout cas.
Il faut les oublier. Ah, oui. Mais Sabine Vespizer, vous étiez confiante parce que vous avez senti, on a tous senti, avec le premier livre de Sarah Jolien-Fardel, qu'il y avait une voix.
C'est toujours un pari, un premier roman, de toute manière. Enfin, moi, quand je publie un premier roman, j'ai toujours le sentiment du profil d'une œuvre, pour reprendre le titre d'une célèbre collection de livres scolaires naguère. Et j'avais la conviction, en lisant les premières pages de Sa préférée, donc en début 2022, qu'il y avait là un tempérament d'écrivain dans la manière dont ce texte déjà et contenait la violence et voilà, avec une langue très âpre, très ancrée. Donc oui, j'avais confiance, ouais.
Et alors dans La Longe, il y a des choses qui sont communes peut-être avec Sa préférée, et d'autres qui sont extrêmement différentes. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut pas trop révéler non plus, parce que c'est important comment la tension monte dans la lecture de ce livre. Alors, je vais lire quand même quelques phrases de la quatrième de couverture. Chaque jour au réveil, Rose lutte pour ne pas être assaillie par la réalité, dans la chambre aux parois boisées où elle vit désormais. Je ne dis pas la fin de la phrase. Tout a basculé 3 ans auparavant, quand la police est venue lui annoncer l'accident. Anna, sa petite fille, a été fauchée par une camionnette. Depuis lors, Rose interroge le passé, tente d'élucider les circonstances du drame, et chemin faisant nous révèle celle de son enfermement. Alors on ne va pas trop en dire sur cet enfermement, parce que je pense qu'il faut, le laisser découvrir. Mais je voudrais qu'on parle aussi de l'avant. Et à l'avant, le moment, même avant cette petite fille qui au fond n'était pas totalement désirée, parce que elle avait peur d'avoir un enfant, elle avait peur de mourir, elle avait peur aussi de transformation de son corps, sans doute. Elle le dit pas tout à fait, mais si, cette peur-là, elle existe quand on dit j'ai peur d'avoir un enfant. Mais quand même, quand cet enfant est arrivé, ça a été une bonne surprise.
Une très bonne surprise. Effectivement, il y a aussi, vous le sous-entendez, il y a beaucoup de silence dans cette écriture qui est absolument volontaire, même si les personnages prennent des décisions que moi, l'autrice, je suis. Mais il y a beaucoup de silence qui est vraiment à l'image des lieux. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une histoire de transformation du corps et elle avait peur de la mort parce qu'elle a aussi connu la mort jeune. Et malgré tout, elle a gardé sa lumière beaucoup grâce à son entourage, notamment ses grands-mères qui sont des figures assez fortes et très ancrées dans les lieux aussi.
Mais justement, donc on sait que la mort de cette petite fille, c'est une tragédie. De toute façon, toute la mort d'un enfant, c'est toujours une tragédie. Mais elle est aussi, quand sa grand-mère meurt, elle est très, très affectée par la mort de la grand-mère.
Oui, la mort de sa mère, vous voulez dire ?
Oui, de sa mère.
De sa mère, oui. Oui, oui, bien sûr, elle est affectée, mais malgré tout, ça fait partie de la vie, elle continue, et probablement qu'elle a cette joie et cette lumière en elle, malgré et contre tout. Au contraire, par exemple, son frère, qui pourtant a été élevé dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux, et on se rend compte que pour lui, c'est beaucoup plus difficile. Mais ensuite, sa fille, je pense que c'est le coup d'assommoir, quoi. C'est vraiment... elle n'arrive pas à accepter ce deuil. Et puis, elle va vraiment jusqu'au bout, quoi, de sa douleur. Elle parvient vraiment pas du tout à remonter, contrairement à son mari. Et puis, à un moment donné, advient la magie... de la vie quand même, quoi, de la lumière qui la retire vers le haut.
Mais alors quand je disais qu'il y a quelque chose de commun avec sa préférée, c'est que je trouve que, je ne sais pas si Sabine partage mon sentiment, mais je trouve que vous avez une qualité exceptionnelle pour parler de la nature, la montagne, le lac, etc. C'est assez rare. Moi, très souvent, dans les romans où on décrit la nature, ça ne me touche pas. Mmh. Et vous avez cette manière de faire entrer la nature ou de nous faire entrer dans la nature.
Alors moi, je me mets vraiment dans un état, je décris, c'est vrai, peut-être un peu facilement les endroits d'où je viens, mais c'est ça qui me constitue et qui constitue les personnages. Et vraiment, je me mets comme dans un film et je déroule ce qui m'entourait, moi, quand j'étais enfant. Après, j'en ai pas fini parce qu'il y a vraiment plein de choses dans la nature et aussi, il peut y avoir aussi l'art, par exemple. Enfin, vraiment, la beauté est très, très importante dans ma vie, donc j'essaye de la retranscrire dans les livres. En fait, c'est infini. Par exemple, j'aurais pu, après que le livre soit terminé, je me suis dit, j'aurais dû parler de la variété des papillons, parce que quand j'étais enfant, il y avait vraiment des variétés de papillons qui n'en a plus aujourd'hui. Donc, merci de ne pas être lassée par c'est des petites choses de
non,
la vie.
Non, pas du tout. Au contraire, quand il déménage dans le village, il se passe des choses, c'est une nouvelle nature, c'est une nouvelle manière d'appréhender la nature. Et ça m'avait déjà beaucoup frappé dans Sa préférée, vous aussi, Sabine Despiser.
Je suis absolument d'accord. Et quand je disais que je trouvais que l'écriture de Sarah était ancrée, c'est que moi, quand je lis ces phrases, parfois je me dis, tiens, là, on n'est pas tout à fait dans une tournure académique. Mm-hmm. Et je me dis, mais non, enfin, voilà, on a l'âpreté des blocs des falaises valaisannes, on a le torrent qui charrie la rocaille, on a aussi une économie de moyens absolument extraordinaire. C'est-à-dire, moi, je vois dans cette langue-là l'âpreté, la difficulté aussi de la vie en Valais, parce qu'il y a ça aussi dans les romans de Sarah, que ce soit dans Sa préférée comme dans La Longe. Il y a quand même une nature dont on ne peut pas faire l'économie.
Oui, mais justement, ce sont des femmes qui se retrouvent grâce à la nature, d'une certaine manière, les deux, celle de Sa préférée et Rose.
Oui, parce qu'elles ont... je pense que c'est tellement... Ça prend tellement de place. Moi, j'ai un peu aussi cette impression, par exemple, quand je vais en Bretagne... Alors que il y a la mer, quoi. Enfin, ça a rien à voir. Mais pour moi, vraiment, la Bretagne, c'est le Valais avec la mer. C'est-à-dire qu'il y a les marées, par exemple, c'est quand même hyper puissant. On doit faire attention. Enfin, on doit y penser. Et puis la montagne, c'est la même chose. Le temps tourne en quelques minutes. Enfin, voilà, ça prend vraiment beaucoup de place et ça peut, et c'est souvent une consolation. La nature. Et c'est pas cucu, quoi. C'est vraiment quelque chose de très puissant.
Il faut dire aussi que c'est un livre magnifiquement construit. Il y a une première partie, puis il y a une petite quelque chose qui s'appelle Aparté, dont on ne va pas trop parler, justement, parce que ça s'appelle Aparté. Et puis une deuxième partie. Mais je voudrais dire quelque chose, parce qu'elle n'est pas désincarnée, cette rose. Le soleil décline, le vent remonte dans le vallon, bouscule un volet qui claque contre la façade en bois. En remâchant mes souvenirs, une fulgurance, je réalise pour la première fois, comment est-ce possible, que mon métier n'a pas été un choix hasardeux. Je libère les articulations d'autres que Paul. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, Rose ?
Elle est ostéopathe. Et donc, elle s'occupe des corps. Et elle a peut-être, comme moi, j'ai vraiment dans ma vie, et dans l'écriture aussi, des angles morts. Enfin, voilà, quelque chose qu'on ne voit pas. Et elle, vraiment, alors que c'était assez gros quand même, pour la raison pour laquelle elle s'occupait des corps de son frère qui a eu un accident, qui a modifié quand même sa trajectoire. Et vraiment, faire du ski en Valais, en compétition, c'est vraiment un sacrifice scolaire. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et elle le remarque au moment où, en fait, elle a vraiment du temps, pour une raison qu'on ne va pas dévoiler, et où elle est seule avec elle-même, face à sa vie, avec des retours depuis son enfance. Et là, elle réalise enfin pourquoi... Enfin, elle réalise pourquoi, la raison pour laquelle elle fait ce métier.
Et alors, Sarah-Julia Fardel, donc, à la mort d'Anna, vous l'avez dit, tout bascule pour elle. Et contrairement à son mari qui essaie de faire face à cette horreur et à ce deuil, elle n'arrive pas à remonter. Mais malgré tout, dans votre livre, et on le voit à la fin puisque vous les citez tous, c'est parsemé de citations, de livres, de chansons, du retour à la littérature. Donc, je voudrais dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, alors non, c'est plutôt... il y a une femme qui s'appelle Hélène, dont on ne va pas trop dire non plus. Elle entame ses séances par un haïku ou quelques vers d'Emily Dickinson, comme une mise en bouche. Un matin frisqué, Hélène propose un nouveau texte en me prévenant que ce n'est pas un roman. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûre que c'est véridique. Il y a des gens qui arrivent, ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés. Où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. Alors, je dois avouer que je n'ai pas trouvé quel était ce livre. Mais c'est quelque chose qui, au fond, dénoue quelque chose dans Rose, ce texte.
Oui, elle réalise que... Jusque-là, elle imaginait qu'elle avait le monopole de la douleur. Perdre un enfant, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Elle reste figée dans cette douleur. Et là, elle réalise qu'il existe des douleurs bien, bien plus grandes que la sienne, que plein de parents ont perdu des enfants dans des conditions bien plus terribles. Et donc, voilà, ce texte de Charlotte Delbault. Alors, peut-être qu'il y a eu toute une mise en condition pour qu'elle l'accueille. Mais ce texte de Charlotte Delbault, et moi, la première fois que j'ai lu... Enfin, voilà, je veux dire, on peut pas... C'est tellement fort et tellement puissant où là, elle se dit, mais en fait, je suis vraiment pas la seule. Et d'autres que moi se relèvent. Effectivement, c'est une consolation, oui. Une réalité ou quelque chose qui la touche vraiment profondément, une empathie aussi, le malheur des autres la touche particulièrement à ce moment-là.
Alors j'en profite pour dire que Charlotte Delbault a parsemé toute son œuvre de poésie. Et comme vous le savez, Sabine et Sarah aussi sans doute, les éditions de Minuit ont isolé ses poésies et elles ont publié en volume récemment. Et je recommande à tout le monde d'aller voir ce recueil de Charlotte Delbault.
Oui.
Et Charlotte Delbault, c'est quelqu'un qui vous a marqué aussi, dont la lecture vous a marqué, vous, personnellement, Sarah?
Ah oui, bien sûr. Alors là, moi, vraiment, je ne triche pas. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ressemble beaucoup aux gens de la montagne. C'est vraiment des livres... Alors, je ne sais pas, je me suis posé la question aussi depuis 4-5 ans. En fait, je relis beaucoup de livres, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Vraiment, je relis. Et les livres qui sont cités dans la longe sont vraiment des livres qui m'accompagnent depuis toujours, peu importe si ce sont... ils sont super connus comme Rilke. Mais Rilke, je ne sais pas, j'ai 3 ou 4 versions, dont la première quand on l'apprend à l'école, etc. Donc, c'est vraiment des livres, des textes qui m'ont beaucoup, ou des auteurs qui ont été importants dans ma vie.
Donc, en effet, il y a Charlotte Delbault, on vient d'en parler. Il y a Rainer Maria Rilke. Et il y a Marguerite Duras. Et alors, il y a quelqu'un que moi, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas comment vous l'avez découvert et pourquoi vous l'aimez. Il y a John Fante.
Oui, alors...
pour oui. mon chien stupide.
Oui, alors John Fante, c'est vraiment... Alors lui, c'est un peu... C'est un lien avec sa préférée, parce que moi, je ne suis... Dans la vie, je pense que je peux être assez drôle, mais pas du tout dans l'écriture. Je n'ai aucun humour, je ne sais pas pourquoi, c'est... j'aimerais bien écrire avec beaucoup de second degré et tout ça. Malheureusement, je n'ai pas ce talent.
Mais du second degré, il y en a quand même un peu, Sabine Vespizère, dans ce livre, je trouve.
Il y a une distance, en tout cas. Il y a la distance qui permet la narration.
Mais oui, oui la distance, oui, mais... Oui. Vrai... Et John Fante, alors avec... Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, Mon chat stupide.
Tout ce dont on ne parle pas, parce qu'il faut oui. que le lecteur découvre, c'est une image quand même qui... C'est un truc symbolique, c'est quelque chose qui est à distance.
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai.
Le titre déjà, ça s'appelle La Longe, vous découvrirez pourquoi.
Mais John Fante, je trouve que, enfin voilà, avec Mon chien stupide, il est hyper drôle, alors que voilà, c'est pas spécialement, la situation n'est pas spécialement drôle. Donc, et puis pendant sa préférée, j'ai relu à un moment donné quand je corrigeais John Fante, et vraiment, enfin Mon chien stupide particulièrement, et vraiment, c'est, moi ça me met en joie, quoi. De lire Mon chat stupide.
Et Marguerite Duras ?
Alors, Marguerite Duras, ouais, c'est vraiment une grande histoire. Je pense que... Enfin, là, j'ai des obsessions. Et puis, là, ben, j'ai relu ces trois dernières années presque tout ce qu'elle a écrit. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Elle ne m'a jamais quittée. Mais là, vraiment, vraiment je retrouve un bonheur comme au temps de la jeunesse quand j'ai connu Marguerite Duras avec l'amant, quoi.
Et Fernando Pessoa ?
Fernando Pessoa, c'est jamais fini, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est infini. On peut lire et relire et on comprend toujours d'une autre manière.
Mais je trouve que c'est une œuvre qui vous va bien.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que sa préférée, le titre de travail, était L'Intranquille.
Et oui. Je trouve que c'est une œuvre quand j'ai
exactement.
Vu qu'il était cité à la fin, je me suis dit, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une œuvre qui va très bien à l'univers de Sarah-Joëlle Fardel.
Et après, on ne l'a pas mis parce qu'intranquille, c'est un mot trop sophistiqué pour le lieu. Alors, il est simple, mais c'est vrai que l'époque et le lieu, l'intranquille, c'était un mot qu'on n'utilisait pas couramment, quoi. Dans la région.
Mais alors, ce qui m'avait frappé dans sa préférée, on en avait parlé ici, et je trouve que c'est la même chose dans La Longe, c'est que, comme vous le disiez quand on a parlé de sa préférée, très souvent dans les romans, on parle de résilience, de gens qui y arrivent. Et donc vous choisissez de parler de personnes qui n'y arrivent pas.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les vrais gens et la plupart. Enfin, voilà. Et dans l'époque dans laquelle on vit, où il faut absolument être parfait, réussir, être la meilleure version de soi-même. Ça, je l'ai déjà dit pour sa préférée. C'est vraiment quelque chose qui me touche pas. D'ailleurs, j'y crois pas. Hein. Et là, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Là, il y a le deuxième tome. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les monstres. Enfin, c'est vraiment ce super grand recueil graphique. Et moi, ce qui m'intéresse sont les gens avec leur faiblesse, avec... Et elle aussi, enfin, le personnage principal, comme sa préférée, ben ça, je l'ai remarqué après coup, sont aussi pas tout blancs, quoi. À chaque fois, ben, je me retrouve avec un personnage qui est violent, physiquement. Je n'avais pas fait vraiment attention. Enfin, voilà, les choses sont pas noires ou blanches, quoi, dans la réalité. C'est ça, c'est toutes ces failles que j'aime.
Mais Rose Auffant, elle y arrive un peu plus que l'héroïne de sa préférée,
au bout
du compte.
Oui, elle n'a pas du tout, mais elle a pas du tout la même enfance, elle n'a pas du tout le même terreau qui l'a nourrie, quoi. Elle a vraiment été très, très aimée, notamment par ses deux grands-mères, qui sont très différentes. Et puis voilà, c'était aussi, on peut vivre sans sa mère, parce qu'il peut y avoir des substituts, mais est-ce qu'on peut vivre sans sa fille ? Ça, c'est vraiment, c'est une autre histoire, quoi. Et c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'on peut vivre sans sa mère, mais sans son enfant, ben voilà, je pense que ça reste une grosse béance, quoi.
Sans sa mère, il y a un exemple qui est souvent cité comme terrible, qui est quelqu'un sur qui j'ai travaillé, donc ça, elle m'intéresse beaucoup, qui est Marguerite Yourcenar, qui considérait que si sa mère avait vécu, elle lui aurait amené plutôt à faire de la broderie et à se préparer à des thés plutôt que d'apprendre le latin et le grec. Donc que finalement, l'absence de mère n'avait peut-être pas été si tragique que ça. Mais je sais que chaque fois que j'ai parlé de Marguerite Yourcenar en public et que j'ai dit ça, ça choque beaucoup de...
Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin.
Alors, dans la région du Valais, c'était plutôt si les pères disparaissaient. Les mères, vraiment, je parle vraiment de la génération de gens qui sont nés dans les années, entre les années 40 et 50, les femmes qui n'avaient plus de père à la montagne faisaient des formations, alors que celles qui avaient un PERM, hein, voilà, il fallait travailler tout de suite.
Le PERM était au travail.
Ouais, oui, c'était le contraire. Les femmes, elles voulaient s'en sortir.
Mais il est vrai, comme vous le disiez, que l'héroïne de sa préférée, que j'invite tout le monde à aller acheter en livre de poche, puisque maintenant, voilà, en livre de poche, et à lire aussi avec la longe. Je ne l'ai pas apporté, là, parce que je ne l'ai pas en livre de poche, je l'ai en édition normale. C'est que l'héroïne de sa préférée, elle a été blessée dès le départ dans la vie. Alors que, comme vous le disiez, Rose, elle a été simplement dévastée à la mort de sa fille.
Exactement.
Avant, c'était une femme plutôt heureuse avec, avec son mari Camille, c'était plutôt heureux.
Oui, alors ça, c'est aussi... les deux personnages sont apparus en même temps. Et pourtant, je ne suis pas une grande fan en littérature des histoires d'amour. Enfin, oui, évidemment, il y en a de très très belles, mais ce n'était pas mon intention. Mais ils s'aiment aussi à l'image de la montagne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de se parler, ils se comprennent. Je trouve que c'est une histoire d'amour pudique, mais très profonde en fait. Finalement, c'est ce que j'aime dans la vie, quoi, la profondeur.
Mais justement, Sarah-Julien Fardette, je voulais qu'on parle de l'homme, parce que c'est un très beau personnage. Il est un peu silencieux, comme vous l'avez dit, mais il est extrêmement délicat. C'est un homme très délicat.
Oui, alors on le sent quand il fait il est architecte, donc tous les métiers, je les ai choisis, je les ai pas choisis par hasard. Il est architecte et quand il fait ses concours, parce que voilà, il y a des concours d'architecture où il panique un petit peu, il se pose beaucoup de questions, ça on découvre au début du livre, et elle est plutôt toujours très tranquille. Et puis après, les choses s'inversent. Alors peut-être que c'est aussi dans les histoires de couple, quand un va pas bien, l'autre a pas trop le choix, par réaction, d'essayer de sortir. Il essayait vraiment de la sortir de sa torpeur et de sa douleur. Et effectivement, il est très délicat parce qu'il est instruit. Il a un côté aussi peut-être un peu féminin, mais il a un côté féminin de délicatesse. C'est pas contradictoire avec, avec
pourquoi,
le contraire.
Les hommes,
quoi.
Les hommes sont des femmes comme les autres.
Oui, c'est ça, je suis d'accord avec vous.
Et Sabine Vespizer, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre ?
Les motifs cachés. Oui. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous venez de parler de littérature qui joue un rôle énorme, et tous ces textes qui ont été cités jouent un rôle énorme dans le livre, pour une femme et pour un homme qui sont de peu de mots. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et en effet, pour moi, le motif caché du livre, c'est a évidemment trait à cette histoire de couple aussi. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais il y a des lignes de fuite. Moi, j'aime beaucoup que les livres ne me disent pas tout et me laissent de l'espace. Hein. Et là, j'ai eu beaucoup d'espace.
Il y en a beaucoup.
J'ai beaucoup aimé ça.
Il en reste beaucoup. Il en reste à découvrir par les lecteurs dont on n'a pas parlé ici, mais que vous et moi, on a déjà découvert. Mais il nous en reste à découvrir aussi à nous. C'est ça que je trouve. Il se trouve que je l'ai relu hier soir, parce que je l'avais lu il y a assez longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vois des choses que je n'avais pas vues. C'est ça que j'aime dans un livre.
Mais moi, c'est toujours le test. C'est-à-dire, quand je lis le bon à tirer du livre et que je trouve d'autres choses, c'est que c'est bien.
Il faut lire la longe. Il faut lire la longe. Il faut lire tout de suite aussi sa préférée si on ne l'a pas fait en édition de poche. Donc, c'est aux éditions Sabine Vespizer, la longe. Et Sabine, je voudrais quand même, on aurait dû en parler plus longuement si on avait été un jour moins difficile, mais je voudrais qu'on parle de quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui a eu la très mauvaise idée de mourir cette année. Ouais. Mais il faut dire qu'elle n'était plus très jeune, qui est Edna O'Brien.
Elle est toujours avec nous.
Mais elle ne nous a pas vraiment quittés, en fait. Et donc, vous avez choisi de publier cette trilogie, qui sont ces trois premiers livres. Et je voudrais que vous en disiez un mot avant qu'on termine. Et je crois que ça marche bien. Les gens l'achètent.
Oui, c'est merveilleux. Je suis très heureuse.
Il faut l'acheter. Ouais. Il faut le garder dans sa bibliothèque. Donc, il faut acheter d'urgence ces deux livres. Voilà. Et voilà. Et donc, deux mots sur Country Girls.
Il y a des livres qui transforment vraiment une situation et qui transforment parfois le monde. Et Country Girls a vraiment transformé, lors de sa parution en 1960, la situation des femmes en Irlande et la situation des femmes en général. Edna O'Brien a 30 ans. Elle écrit un roman où elle parle de deux jeunes femmes qui vivent librement à Dublin, qui décident de s'émanciper, qui s'étaient fait renvoyer du couvent et qui ont des histoires d'amour. Alors, qui vivent leur vie librement, une vie sexuelle. Et ça, en Irlande, dans les années 60, compte tenu du poids de la religion, ça ne passe pas du tout.
Donc, elle a été bannie, interdite, bannie.
De la société, interdite de publication. Elle vivait déjà en Angleterre à l'époque et elle a tenu bon. C'est-à-dire que 64 ans plus tard, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en avril, elle était extrêmement affaiblie. Elle était devant sa table de travail en me disant « Je ne vais pas tenir longtemps, mais il faut que j'arrive à terminer cet essai sur T.S. Eliot que j'ai promis. »
Elle l'a terminé ?
Elle l'a terminé.
Et vous allez le publier, bien sûr ?
Je l'attends.
et alors, on parlait de motifs cachés. Il y en a aussi chez Edna O'Brien. On peut lire et relire Edna O'Brien. Donc, je voudrais quand même que tout le monde lise ces deux livres. Alors, La Longe, donc le titre en dit long, mais on n'a pas dit ce que ça en disait. Et c'est très bien qu'on ne l'ait pas dit. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans ce livre, c'est que je remonte parce que j'y tiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le moment où il y a un texte littéraire, non romanesque, mais quand même très littéraire, qui fait basculer quelque chose en rose et qui fait qu'elle va finalement y arriver.
Mais comme ça fait chez nous, en fait. On a tous été complètement bouleversés ou ça nous a fait prendre certaines décisions en lisant certains textes, quoi. Ça, je veux dire.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Edna O'Brien d'avoir écrit tout ce qu'elle a écrit. Et je laisse l'antenne à Sandrine Seban pour cette émission spéciale. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.